Les conférences du Collège de France.
Chers collègues, chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, poursuivant notre réflexion sur l'Europe géopolitique, je vous propose un voyage en pleine pandémie. En plus d'offrir de leçons brutes de politique sanitaire, cette crise nous instruit sur notre place dans le monde. Où commencer cette histoire? En décembre 2019, sur un marché d'animaux vivants de Wuhan, en Chine, un centre épidémique qui paraît aujourd'hui lointain. Ou bien le 28 janvier 2020, alors qu'on signalait les trois premiers cas en France et en Europe et que les autorités sanitaires nous juraient que tout était sous contrôle. Ou, pourquoi pas, le dimanche 23 février, lorsque les autorités du nord de l'Italie ont bouclé 11 localités, lorsqu'on a baptisé Bergame la Wuhan italienne et que le chaos s'est emparé des hôpitaux régionaux. Pas assez de respirateurs, des médecins et des infirmières qui se sentaient, je cite, « envoyés pour éteindre les incendies tels des pompiers en pyjama ». Des gens agonisant dans les couloirs, des scènes d'enfer. Au regard de l'ensemble européen, notre protagoniste, le vendredi 28 février me paraît un point de départ approprié. Ce jour-là, Rome demande officiellement à ses partenaires de l'Union une aide médicale. Alarme ! Solidarité ! Or, que se passe-t-il ? Au moment même où l'Italie implore ses voisins de lui fournir masques, équipements de protection et respirateurs, ils prennent conscience que la catastrophe pourrait les toucher à leur tour. S'ensuit une panique gouvernementale et administrative. Subitement, la Covid-19 n'est plus une maladie exotique. Elle se fait proche de nous, de nos pays, au point qu'on abandonne à eux-mêmes nos voisins à bout de souffle. Pour chacun, à présent, il s'agit d'agir afin d'assurer sa propre survie. Mobilisation générale. Les 3 et 4 mars 2020, la France nationalise tous les masques et autres équipements de protection. L'Allemagne impose une interdiction d'exportation. Et si les deux grands violent les règles, c'est la fin des haricots, l'avènement du chacun pour soi. 10 jours après son appel au secours, l'Italie n'a toujours pas reçu d'aide médicale de l'Union, ainsi que le révèle le 10 mars l'ambassadeur italien auprès de l'Union européenne dans Politico, je cite, seule la Chine a répondu à l'appel. Ce n'est certainement pas un bon signe de solidarité européenne. Fin de la citation. On saisit rapidement ce que ça signifie. Sous le feu des projecteurs médiatiques, un avion de la Croix-Rouge chinoise atterrit le jeudi 12 mars à Rome, et non à Milan, centre de l'épidémie, soulignant ainsi le caractère diplomatique de la mission. Le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, fait l'éloge de la solidarité entre les deux pays. Parallèlement, le gouvernement italien commande du matériel médical pour plus de 200 millions d'euros. D'autres vols de même nature suivent, certains à l'initiative d'autorités régionales et locales, dont 3 transportant du personnel médical. Les ports de Gênes et de Trieste ne sont pas oubliés par le partenaire chinois, reconnaissant de l'accès privilégié scellé en 2019. Intitulée « L'Europe face à la Chine », cette conférence, deuxième exercice géopolitique, est placée sous le signe de la rareté. Nous allons le voir. Si la pandémie ébranle notre carte mentale du monde, il est bon tout d'abord de prendre conscience qu'elle a contrecarré la vision économique de la doctrine bruxelloise. L'idée de marchés ouverts, au niveau de concurrence équitable, où offre et demande se croisent, idéalement dans le monde entier. D'où la difficulté qu'éprouve la Commission européenne de saisir, par exemple, que l'interdiction d'exportation, mesure taboue en temps de paix, doit faire partie de notre panoplie lors d'une crise. un pas que l'équipe de Mme von der Leyen vient seulement de franchir il y a 15 jours, à propos des vaccins. Un acte géopolitique tardif, mais fort. Il y a un épisode douloureux, d'autant plus instructif qu'on en a peu parlé, que j'aimerais partager avec vous. Alors que l'Union, institutions et États, lutte actuellement pour acheter et distribuer le remède miracle, elle a eu, voici un an, l'occasion d'évaluer les forces politiques et publiques perturbatrices que libère une crise sanitaire d'une gravité extrême. En février-mars 2020, se découvrant impuissante à faire respecter les règles, du libre-échange ou à obtenir des capitales qu'elle se montre solidaire au sujet des masques, la Commission a cherché un autre rôle. L'Europe ne pouvait pas agir par elle-même et se mêler à la bataille, loin de son rôle d'arbitrage par réprimande. Cela s'est traduit par un moment d'hybris technocratique invraisemblable. L'Union, en tant que telle, ne dispose ni de stock ni d'usine. Il faut donc tout acheter. Le 28 février, jour du cri d'alarme italien, la Commission lance un appel d'offres pour des masques et des équipements de protection. Dans le cadre de la procédure dite d'urgence, les entreprises ont 6 jours pour répondre. Or, aucune ne propose le moindre devis. Le 17 mars, 5 jours après l'atterrissage de l'avion chinois à Rome, la Commission lance un deuxième appel d'offres portant sur des gants, des masques, des protections oculaires et des combinaisons. Une réussite, annonce fièrement Ursula von der Leyen une semaine plus tard. Il y a suffisamment d'offres sérieuses pour fournir le nécessaire à tous les États intéressés. Son message, la solidarité européenne en action, être membre, cela paye. Italie, Espagne, vous souffrez, l'Europe vient vous soulager. Cependant, les camions ne démarrent pas tout de suite. C'est écrit en petits caractères en bas de page. Le matériel ne sera disponible que 2 semaines après la signature du contrat avec les producteurs, en fonction de la capacité de production, des délais de livraison requis et des spécifications contractuelles. On se mettra donc en route au plus tôt à la mi-avril. Des délais brefs selon les normes bureaucratiques, mais terriblement longs dans le cas d'une pandémie. Il faut aller plus vite, disent à Mme von der Leyen les chefs de gouvernement le 26 mars lors d'un sommet en visioconférence. Une réalité s'impose. Dans une pandémie, les lois de l'économie des guerres priment sur celles de l'économie de marché. Du jour au lendemain, il n'y a plus de marché pour les masques ou les kits de tests à propos desquels lancer un appel d'offres. Ce n'est pas le rapport entre offre et demande, exprimé en euros, qui détermine qui obtient quoi, mais les rapports de force brute, la capacité de l'État à réquisitionner, à produire lui-même, à rapiner si nécessaire, ou dans une variante, disons, semi-marchande, à organiser des contacts directs entre industriels et acheteurs en exerçant une pression douce. Ce sont donc les executive orders et le téléphone, et non les prix, qui répartissent la rareté. Le président Trump, qui recourt à une loi remontant à la guerre de Corée pour obliger General Motors à produire des respirateurs, l'a tout de suite perçu, tout comme son homologue français. Xi à Pékin et Poutine à Moscou ne travaillent-ils pas de cette manière? Même ceux qui n'optent pas pour une telle agressivité en matière de politique de puissance ne peuvent se contenter de passer une annonce pour obtenir des millions de masques. Au printemps 2020, du marché de la protection médicale, ne subsiste qu'une jungle faite de transactions à la tombée de la nuit, et de prix exorbitants. Les États membres, voyant enfin en face la menace de santé publique, intensifient leur rythme d'action et leur pression politique. En revanche, les institutions bruxelloises ne peuvent prendre pareil visage. En soi, ce n'est pas grave, mais les choses tournent mal quand ces spécialistes de la politique de la règle et du compromis estiment pouvoir solutionner une pandémie à coup d'appel d'offres, de même qu'ils ont cru pouvoir gommer 5 ans plus tôt le drame des réfugiés par des quotas d'asile tirés de la boîte à outils pour les quotas de pêche. Pareil excès de confiance dans la réglementation face aux grands événements conduit en pratique à des débâcles. Et plus encore lorsqu'on se pose en sauveur au milieu de la tempête, à une perte de confiance du public. Laissons de côté maintenant ces deux épisodes tout aussi instructifs que tristes qui ont commencé le 28 février. L'appel au secours italien, l'appel d'offres bruxellois. Et abordons le récit au cœur du grand théâtre géopolitique de la pandémie. Pour ce faire, le 6 février, toujours 2020, est un bon point de départ. Ce jour-là, le président chinois téléphone à son homologue américain pour faire le point sur l'épidémie qui frappe son pays. Grâce à un effort colossal, tout est sous contrôle, assure Xi Jinping. La croissance économique de la Chine va bientôt reprendre. La rapidité avec laquelle Pékin a construit des hôpitaux d'urgence impressionne Trump, qui se dit prêt à envoyer experts et aides. Un coup de fil routinier, dont la portée n'a toutefois pas échappé à l'Américain. Le lendemain matin, il confie à un journaliste « This is deadly stuff ». C'est bien pire qu'une grippe carabinée, et ça se propage dans l'air. Tandis que dans les capitales européennes, on voit tout au plus un voyant orange se mettre à clignoter chez quelques virologues, à Washington, le plus haut niveau politique saisit l'ampleur potentielle du danger. Dès la fin janvier, personne aux États-Unis n'est encore succombé à la maladie, le principal conseiller à la sécurité de Trump avertit ce dernier, je cite, « Il s'agit de la menace la plus importante sous votre présidence pour la sécurité nationale. » Une semaine après la conversation avec son adversaire impérial, l'économie est en plein essor, les sondages sont bons, les caisses de campagne se remplissent. Son directeur de campagne lui dit, je cite, c'est la seule chose qui puisse faire tomber votre présidence. Ce à quoi Trump rétorque, this fucking virus. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ma réélection? En mars 2020, le centre de gravité de la pandémie passe de la Chine et de la Corée du Sud à l'Europe. Le mois suivant, au continent américain, puis de nouveau au continent asiatique, à commencer par l'Inde. Sur la scène mondiale, tout le monde s'observe. Pour les gouvernements, il est important de savoir si la menace sanitaire se dirige vers eux et de tirer des leçons des approches adaptées ailleurs, d'éventuellement offrir ou demander de l'aide. Cependant, la COVID-19 accentue une dimension des échanges diplomatiques habituels en temps de crise, celle de la puissance politique. À la différence d'une catastrophe naturelle, une maladie infectieuse, propagée par les déplacements humains, offre une opportunité unique de discréditer, d'affaiblir ou de manipuler les autres acteurs. Qui est responsable? Qui ne maîtrise pas les choses? Qui offre une aide? Qui formule le récit le plus convaincant? Dans le maelstrom médico-politique du printemps 2020, 4 idées, aussi révélatrices que déroutantes, s'imposent aux oreilles surmédiatisées du public européen. 1. Dans cette catastrophe, l'Europe n'a ni la bouée de sauvetage, ni la Croix-Rouge du monde, mais une désolante victime. 2. dans la lutte contre la pandémie, le grand allié américain, en première ligne dans toutes les crises internationales depuis 1945, est absent, voire tout aussi désarmé. 3. C'est la lointaine et insaisissable Chine qui apporte des tonnes de matériel médical. 4. Et pour couronner le tout, le public européen apprend sur le tas que la ligne de démarcation entre aide d'urgence et politique de puissance est très mince. Qu'un bienfaiteur peut avoir des exigences. Cette série d'expériences perturbe la conscience géographique et historique de l'Europe. Sur la carte mondiale des émotions, compassion et respect ont changé de côté. La pandémie contraint l'Europe à poser un regard postcolonial sur la République populaire de Chine, un regard post-atlantique sur les États-Unis et à redéfinir sa position et son identité continentale. Bien assez donc pour nous occuper ici quelques heures. La diplomatie du masque est le phénomène qui résume le mieux ces glissements telluriques. On a vu que l'Italie, durement touchée par le virus en raison des liens qu'entretient l'industrie lombarde avec des centres de production chinois comme Wuhan, a aussi été la première à bénéficier de la main tendue. La Serbie est une autre étape de cette nouvelle route de la soie par où passent maladies et aides. À la mi-mars, le président Aleksandar Vučić se rend en personne à l'aéroport de Belgrade pour recevoir un lot de masques. La solidarité européenne est un conte de fées pour enfants, déclare-t-il à cette occasion. Je crois en mon frère, je crois en Xi Jinping. Depuis Prague, le président tchèque Miloš Zeman annonce fin mars que la Chine est le seul pays à avoir aidé le sien. On saisit que Pékin maintient de bonnes relations entamé dans les années 50 avec les anciens peuples frères communistes d'Europe centrale et orientale. Il en va autrement des pays de l'Europe du Sud et de l'Ouest, qui bénéficient de la protection de l'OTAN et du soutien américain dans le prolongement du plan Marshall. Ainsi, la diplomatie chinoise du masque fait se hausser bien des sourcils aux Pays-Bas, en reconnaissance de l'aide initiale discrète fournie en janvier et février par l'aéroport de Schiphol et la KLM à Pékin, trois compagnies aériennes chinoises font don en mars de matériel médical à la même KLM. Si le ministre de la Santé, Martin Van Rijn, accueille en personne à Schiphol une cargaison offerte par Alibaba et Huawei, les Pays-Bas déclarent, annonçant condescendance, 600 000 masques achetés impropres à l'emploi. Dans la bataille de l'image, l'Europe s'est mise toute seule en difficulté. Les tonnes d'aide expédiées début 2020 à la demande de Pékin par différents États membres l'ont été sans effusion de drapeau. Le 6 avril, la Commission européenne publie faits et chiffres bruts. Un communiqué de presse pour la petite histoire, mais il est trop tard. La Chine ne tolère pas de perdre la face. Ses dirigeants entendent occuper toute la scène. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Ici à Paris, l'ambassadeur chinois s'emporte tellement à propos de l'échec français dans la lutte contre le virus que son attaque lui revient à la figure comme un boomerang. Pékin ne maîtrise pas encore les subtils codes européens présidant aux échanges entre public et représentants du pouvoir. À Berlin, les députés sont choqués par un article de presse selon lequel des diplomates chinois ont exhorté le gouvernement allemand à se prononcer positivement sur la gestion de la crise par Xi. Le gouvernement informe le Bundestag qui n'a pas honoré cette demande. Un commentateur attentif relève que c'est le ministère de l'Intérieur et non celui des Affaires étrangères qui est chargé de la communication à propos de la Chine. Et je le cite, « Cela signifie que la Chine est devenue un sujet de politique intérieure. Telle est la nouvelle réalité de notre relation avec ce pays. » La réponse offensive de la Chine prend plus de relief encore avec la cynique mise en avant de l'inaction américaine. En chiffres absolus, au cours des 10 premiers mois de 2020, plus de citoyens américains meurent de virus que dans tout autre pays. À maintes reprises, Trump minimise le danger en parlant d'une sorte de grippe. Il accorde peu d'attention aux experts et à ses conseillers. Fin avril, il recommande carrément l'utilisation d'eau de Javel pour lutter contre la Covid. Des centaines d'Américains se retrouvent à l'hôpital en présentant des symptômes d'empoisonnement. Par ailleurs, des responsables américains répandent une idée contagieuse. Le virus serait échappé d'un laboratoire de Wuhan. Trump et Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, parle du virus de Wuhan ou du virus chinois. Fin mars, quand leurs alliés du G7 rejettent ces dénominations lors d'une visioconférence ministérielle, ça tourne à la dispute. Ensuite, Washington accuse l'Organisation mondiale de la santé de couvrir Pékin et de bloquer les enquêtes qui permettraient de dévoiler la vérité sur les origines de la pandémie. En avril, Trump coupe le financement de l'OMS. En juillet, il officialise le retrait des États-Unis. Un duel rhétorique entre les deux adversaires géopolitiques occupe toute la scène internationale. Coincé dans les cordes en tant que propagateur du virus, Pékin nargue le leader du monde infecté en le renvoyant au pitoyable décompte des cas de Covid sur son sol. Quand fin mai, le ministère américain des Affaires étrangères réclame que le gouvernement chinois viole la promesse faite au peuple de Hong Kong en promulguant une nouvelle loi sur la sécurité, son homologue chinois riposte sur Twitter par un simple « j'étouffe »,« I can't breathe », les derniers mots de George Floyd, homme noir dont la mort brutale à la suite de violences policières a déclenché un tollé à travers les États-Unis. Pandémie et tensions raciales, la société américaine est engagée dans une double bataille dont le corps est l'enjeu. En 2020, année électorale, on est à fleur de peau. Dans cette bataille géopolitique, les Européens sont pris au piège. Les deux superpuissances leur demandent de souscrire au grand récit que chacune avance sur la Covid. Xi Jinping entend qu'il le remercie pour les masques qu'il a fournis et il leur intime de se taire à propos du marché de Wuhan ou de la façon dont on aurait pu stopper le virus. Pour sa part, préférant faire la sourde oreille à propos de l'échec de sa politique intérieure, Donald Trump exige la loyauté de ses vassaux dans cette lutte qu'il présente comme une nouvelle guerre froide entre liberté et tyrannie. Un incident révélateur montre combien ces forces se font sentir jusque dans les coulisses bruxelloises. L'Union européenne dispose d'un département contre la désinformation. Créé en 2015 pour lutter contre la propagande russe, suite au réveil géopolitique dont nous avons parlé la semaine dernière, ce département s'occupe depuis 2019 aussi de la Chine. Et il écrit, en avril 2020, dans la version provisoire d'un rapport, que Pékin mène une campagne mondiale de désinformation pour éviter d'être le vilain petit canard de la Covid. Or, le texte de ce papier provisoire fuite dans la presse. Et on craint que la Chine réplique en bloquant des fournitures médicales. Après les pressions exercées depuis Pékin sur les diplomates de l'UE, le terme « répercussion » tombe, on atténue le passage incriminé. Selon le New York Times, un conseiller de Josep Borrell, représentant des affaires étrangères, intervient pour retarder la publication du rapport. Et aussitôt, des critiques fusent de l'autre côté du champ de force. Pete Hoekstra, ambassadeur trumpien des États-Unis aux Pays-Bas, ne se prive pas de tweeter sur l'intimidation chinoise, je cite, « Les vrais amis ne font pas ça ». Borrell de répliquer devant le Parlement européen, je cite, « Il s'agit d'une pratique normale. Nous ne cédons jamais devant la pression ». Comme il souligne, faire preuve de diplomatie relève du travail diplomatique. Le brouillon d'une lettre ne se révèle-t-il pas souvent plus direct que la version que l'on envoie au destinataire? Cela ne veut pas dire qu'on vend son âme au diable, mais que l'on tient compte des sensibilités, des conséquences de ses actes, des intérêts en jeu. Ce que les Allemands appellent Prinzipien Reiterei, être à cheval sur les principes face au Parti communiste chinois, peut certes paraître héroïque, mais quand on manque de masques pour protéger sa population, on s'essouffle rapidement. Ainsi, l'Europe tire de premières conclusions des expériences perturbatrices du printemps et de l'été 2020. Compte tenu du duel impérial face à des opposants agressifs ou à de grandes turbulences, la métamorphose géopolitique de l'Europe devient urgente. Et pour ne pas être prise entre l'enclume états-unienne et le marteau de la République populaire, l'Union doit assumer elle-même la production ou la fourniture d'équipements médicaux et pharmaceutiques. Pas de souveraineté narrative sans autonomie stratégique et inversement. Après ce compte-rendu quelque peu époumonné de la politique géomédicale de cette première année de pandémie, opérons un zoom arrière dans les siècles. Dans la perception chinoise du temps, la diplomatie des masques de 2020 ressemblera à une compensation historique. Le retournement ironique de la diplomatie de la canonnière des années 1840-1860, lorsque des navires britanniques et bientôt français et américains recoururent à la force pour accéder aux ports et aux marchés chinois, notamment pour vendre de l'opium. À l'époque, des trafiquants de drogue européens, aujourd'hui, la Croix-Rouge chinoise. Les Chinois n'ont pas non plus oublié le pillage du palais d'été impérial en 1860. Pour que cet épisode reste gravé dans les mémoires, des photos en noir et blanc de soldats britanniques et français, souriant sur le trône impérial, occupent depuis 2011 une place d'honneur dans l'exposition permanente « La voie du rajeunissement » au Musée national, place Tiananmen, là où le président Xi a prononcé un discours programmatique à la nation l'année suivante. Les crimes coloniaux ont ouvert le siècle de l'humiliation qu'Européens, Américains et Japonais firent subir à la Chine. Siècle qui, selon l'histoire officielle, n'a pris fin qu'en 1949 grâce à Mao et au Parti communiste. Dans sa longue marche vers la restauration de son rayonnement international, la République populaire, malgré son prestige historico-culturel et son poids démographique, a dû longtemps se contenter d'un rôle secondaire. Certes, les années Mao permirent au pays de se positionner comme troisième superpuissance derrière les États-Unis et la Russie. Mais dans cette Chine régnait anarchie, violence et famine. Il fallait tout attendre 1978 et la libéralisation économique de Deng Xiaoping pour que le pays commence à sortir de la pauvreté et rattrape son retard en devenant l'atelier du monde. Malgré tout, cette formule conservait des traits coloniaux. Une Chine industrieuse qui fabrique des marchandises bon marché pour les consommateurs occidentaux et importe en contrepartie machines de haute qualité et produits de luxe. Il n'empêche, au cours des dernières décennies, la prospérité de la Chine s'est traduite politiquement. Une puissance manifeste pour la première fois en 2008. Le 8 août, le monde s'est réuni à Pékin pour suivre la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux olympiques organisés dans ce pays. D'ailleurs, quelques heures seulement après que la guerre a éclaté dans le Caucase entre Russie et Géorgie. Les dirigeants chinois s'emparent de la fête sportive pour envoyer un message géopolitique clair. Nous sommes de retour. Peu de téléspectateurs européens en 2008 ont pu deviner à quelle vitesse ce phénomène allait affecter leur quotidien. La flamme olympique à peine éteinte à Pékin, Lehman, une grande banque d'affaires, s'effondrait à New York. La panique et l'impuissance alors affichées par l'élite politique et bancaire américano-européenne fit perdre à cette dernière une grande part de son crédit auprès des électeurs et du reste du monde. Cette débâcle a renforcé la Chine dans ses choix économiques et politiques. N'était-elle pas la seule grande économie à poursuivre sa croissance, dépassant bientôt le Japon au rang de deuxième économie mondiale? En novembre 2008, le G20 s'est réuni pour la première fois sous la forme d'un sommet. Tout le monde peut constater que le G8 des puissances industrielles occidentales a fait son temps. Se réunir pour parler de la crise mondiale ne fait plus sens sans la présence de la Chine à la table des négociations. Au passage, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Turquie obtiennent à leur tour une chaise. Ce cercle élargi ne peut dissimuler que la question centrale porte dorénavant sur la relation financière entre États-Unis et Chine, au point qu'on se met à parler d'un G2. Conséquence de la crise bancaire et de la crise de l'euro qui suivit, de nombreux gouvernements européens se retrouvent à court d'argent, d'investisseurs, d'acheteurs de dettes publiques, de marchés d'exportation, et la Chine se profile comme une béquille financière. En 2012, à l'initiative de la Pologne, Pékin crée avec les États d'Europe orientale et des Balkans le Forum 16+1, une rencontre annuelle entre les dirigeants de la région et les présidents chinois. Les partenaires d'Europe de l'Est intéressent la Chine dans le cadre, entre autres, de l'initiative Belt and Road, lancée en 2013 par Xi. L'Europe est le terminus occidental de la nouvelle route de la soie. Retour ici aussi de la géographie. La ligne ferroviaire Belgrade-Budapest, financée en partie par les Chinois, en est une liaison terrestre phare. L'achat par la Chine du port grec du Pirée est désormais considéré comme un échec stratégique de l'ensemble européen. Du fait de la politique d'austérité causée par la crise de l'euro, Pékin a acquis un atout géopolitique majeur pour un prix dérisoire. D'ailleurs, les Grecs avaient aussi demandé au port de Rotterdam s'ils n'étaient pas intéressés d'acheter Pirée, mais ils ont décliné l'offre en souriant. Les entreprises publiques chinoises sont également actives dans d'autres ports de la Méditerranée et ailleurs, par exemple à Zeebrugge, Anvers, Rotterdam ou à Sines, au Portugal. Il s'agit du volet maritime de la route de la soie. Malgré tout ça, l'expansion chinoise au lendemain de 2008, d'Athènes et de Gênes jusqu'à Budapest et à Varsovie, ne perturbe pas immédiatement le public d'Europe occidentale. Après tout, cette expansion ne se produit-elle pas parmi les frères les plus faibles de la famille européenne? Cela va changer à la suite de la deuxième onde de choc à partir de 2016. Désormais, la Chine s'affirme comme le rival des forts et non plus uniquement comme le bienfaiteur des faibles. En juillet 2016, la société chinoise Midea achète le joyau technologique allemand KUKA pour une somme record de plus de 4,5 milliards d'euros. Ce fabricant de robots d'Augsbourg jouissait d'une grande renommée. Quelques mois à peine avant cette acquisition, à l'occasion d'une visite officielle du président Obama, des journaux allemands publièrent avec fierté la photo d'un robot KUKA servant une bière à la chancelière et à son invité américain. Le choc KUKA a été suivi d'une série d'investissements chinois et de tentatives de rachat de grandes entreprises allemandes. Et à partir de 2016, celles-ci, de même d'ailleurs que leurs homologues américaines, donc ces entreprises, prennent conscience de la nouvelle réalité. Pékin est bien décidé, grâce à sa stratégie lancée en 2015, à devenir en 10 ans le leader mondial dans les domaines de la technologie de l'information, de l'intelligence artificielle, de la robotique, des voyages dans l'espace, etc. On voit donc qu'il aura fallu attendre que l'Allemagne soit devenue la proie de la Chine pour que l'Europe se réveille et fournisse une réponse concertée. À la suite d'une lettre adressée en urgence à la Commission par les ministres allemands, français, italiens de l'économie, on pond un mécanisme de contrôle des investissements étrangers entre 2017 et 2019, ceci donc à une vitesse éclair par rapport aux normes de l'UE. Conformément aux usages de la politique de la règle, on ne nomme pas la République populaire, mais la visée géoéconomique de ces dispositions n'échappe à personne. La pandémie de 2020 déclenche un troisième choc, lequel sensibilise encore plus le public à la puissance géopolitique de la Chine et à sa volonté de s'affirmer. Cette fois-ci, l'onde dépasse les cercles des initiés et les entreprises directement concernées pour se faire sentir dans tout l'espace public européen. La vulnérabilité de l'Europe sur le plan médical apparaît au grand jour. Les nouvelles relations ne tardent pas à se traduire dans la répartition des responsabilités politiques au sein de l'Union. La Chine devient une affaire des chefs, une chef-sache. En raison des restrictions de voyage, le sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE avec le président Xi, une première prévue pour se tenir à Leipzig en septembre 2020, ne peut bien entendu avoir lieu. Il se limite à une visioconférence entre Merkel, en tant que présidente du Conseil de l'UE, Michel, von der Leyen et Xi Jinping. Début octobre 2020, président et chef de gouvernement approuvent à l'unanimité la poursuite d'une autonomie stratégique. Un moment révélateur. Cette expression, qui pendant des années a rencontré de multiples résistances dans les cercles ministériels européens de la défense, à Londres, La Haye ou Varsovie, parce qu'elle était censée porter atteinte aux liens transatlantiques, se voit approuvée pour la première fois, et ceci au plus haut niveau, par les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire là où les opinions publiques perçoivent la politique européenne. La vulnérabilité médicale et la dépendance pharmaceutique révélées par la pandémie imposent à l'Union d'échapper à l'étau sino-américain. Du jour au lendemain, agir de façon indépendante en matière de politique étrangère apparaît comme une chose publique, une res publica. Au sein de l'UE, la crise de la Covid renforce l'aspiration à mener une politique économique, concurrentielle et industrielle stratégique. On commence à se rendre compte que la sauvegarde de ses propres intérêts ne peut se satisfaire du seul cadre du marché libre. Cela se perçoit à Paris, où cette réflexion n'a jamais été absente, mais aussi à Berlin, à Bruxelles et même à La Haye, où l'on fait traditionnellement confiance à la main invisible du marché. Et je le sais, pour y avoir travailler. Un tournant historique, donc, dont le passage au crible des investissements étrangers que j'ai évoqué constitue un excellent exemple. Depuis des siècles, l'Europe mène une politique commerciale offensive, visant à forcer l'ouverture des marchés étrangers. À cet égard, les règles actuelles de l'OMC en faveur de conditions de concurrence équitables, le fameux level playing field, sont le successeur parfait de l'ancienne diplomatie de la canonnière. Entre-temps, on éprouve la nécessité d'une stratégie défensive. D'autres puissances déterminent désormais les règles du jeu à partir desquelles l'Europe doit défendre son bien-être, son économie et ses ambitions. Et les sociétés européennes, qui se considèrent comme le centre du monde et la mesure de toutes choses, n'ayant guère été remises en cause depuis 1800 sur ce point, ont besoin de temps pour se faire à la confiance en soi affirmée de la Chine. Il est indéniable que la pandémie ouvre les yeux du public européen. La Chine est en train de modifier considérablement l'ordre mondial hérité des 19e et 20e siècles. La stratégie économique de ce pays est d'une portée que l'Europe n'est pas habituée à reconnaître à d'autres puissances, si ce n'est à elle-même et aux États-Unis. Au jeu de ces autres puissances, cependant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que les rôles sont inversés. La Chine y voit d'ailleurs le rétablissement de l'ordre naturel des choses. Cela exige de l'UE une réflexion sur elle-même, un repositionnement et une reconsidération des règles du jeu géopolitique. Et pour ce faire, ça peut aider de regarder comment fait la Chine. La pandémie met en évidence trois caractéristiques fondamentales de la Chine en tant qu'acteur stratégique. Trois énormes atouts. Premièrement, la réflexion à long terme. La culture politique chinoise, qui relève d'une grande civilisation et d'un peuple nombreux, pense en termes de périodes, de décennies et de siècles, plutôt que de compter en années et calculer en fonction des cycles électoraux. Quand les dirigeants européens parlent à Pékin du malaise provoqué par la perte d'une hégémonie au bout de trois siècles, on leur répond « Pendant les 17 siècles précédents, nous étions la plus grande économie. » Du point de vue chinois, la crise de la Covid est une légère ondulation. Le bilan officiel de 3600 morts fin 2020, un petit accroc. Souvenons-nous d'ailleurs de la réponse de Mao Zedong, interrogé un jour sur les dangers d'une guerre nucléaire dévastatrice. Quelques centaines de millions de morts, on le surmontera. On se retirera dans les terres et on recommencera. Cette portée temporelle s'applique aussi au futur. Xi Jinping ne perd jamais de vue l'année 2049, centenaire de la Révolution rouge, année où le pays entend être une puissance économique, technologique et scientifique de premier plan, avec Taïwan dans son giron. Deuxièmement, après la réflexion à long terme, deuxièmement, le centralisme. Le Parti communiste chinois est plus puissant que l'État. Xi est avant tout secrétaire général du PCC, puis commandant en chef et seulement ensuite président, fonction qui lui permet d'agir sur la scène mondiale. Le parti contrôle l'appareil d'État, l'armée, les entreprises publiques, tout en exerçant une grande influence sur les entreprises privées. Certes, la censure et le manque de médias libres ont désavantagé Pékin au moment de l'apparition de l'épidémie. Les mauvaises nouvelles se diffusent mal. Parallèlement, ce centralisme permet aux dirigeants de transmettre un seul message à l'opinion publique, tant dans le pays qu'en dehors. Troisièmement, une vision intégrée. Dans le processus décisionnel chinois, on considère les dimensions politiques, économiques et sécuritaires comme un tout allant de soi. Dans l'économie domestique, cela se manifeste par une forme de capitalisme d'État mercantiliste. Les frontières entre entreprises d'État et entreprises privées restant diffuses. La stratégie Belt and Road est un parfait exemple de la politique étrangère chinoise, laquelle mêle harmonieusement les aspects économiques aux ambitions politiques et militaires et aux besoins à la flatterie culturelle. On va y revenir. La nouvelle route de la soie est à la fois une grande stratégie et une initiative de réseau, une stratégie fluide, très visible dans la diplomatie de la pandémie, un maillage de réflexion, d'opérations tactiques et d'improvisation, tout parfaitement réglé. Ces trois atouts phénoménaux donnent à la Chine une grande capacité à fixer des priorités stratégiques et à les mettre sans tarder en pratique. La perspective à long terme donne confiance en soi, tandis que le centralisme et la vision intégrée facilitent la prise de décision en vue d'une action orientée dans une direction précise. De plus, dans un jeu d'interaction, la taille du pays fait que ces actes ne peuvent rester sans conséquences pour les autres acteurs internationaux. Ainsi, le pays a-t-il les moyens de réorganiser l'ordre international ? Et il le sait. Pour l'essentiel, la Chine copie la stratégie de l'Amérique du XXe siècle, mais au XXIe, la Pax Sinica. Après tout, les États-Unis, eux aussi, reliaient de façon visible et sans ambiguïté économie, sécurité, commerce, rayonnement culturel et géopolitique en une grande stratégie. L'Europe, en revanche, fragmente ses choix en domaines politiques distincts dans une approche sectorielle disséminée entre de nombreux acteurs, ce qui compromet une action adéquate en tant qu'acteur géostratégique. Cependant, l'UE commence à prendre conscience de sa propre faiblesse stratégique et de la nécessité de recalibrer sa politique à l'égard de la Chine. Au printemps 2019, un an donc avant d'être touchée par la Covid, l'Europe produit un remarquable document stratégique, remarqué partout, y compris à Pékin. Je peux en témoigner, ayant rencontré quelques semaines plus tard, lors d'un séjour, des membres du parti et des ministères. Ce document stratégique définit trois rôles que la Chine joue pour l'Europe et pour l'UE. La Chine est un partenaire dans la réalisation d'objectifs mondiaux, politique climatique, non-prolifération nucléaire, lutte contre les pandémies, etc. La Chine est un concurrent dans les domaines économiques et technologiques. Les deux parties négocient afin de définir le cadre de cette concurrence, par exemple par des accords commerciaux. Enfin, Chine et Europe sont des rivaux systémiques, en ce sens qu'ils incarnent des modèles politiques alternatifs, l'Union valorisant les droits fondamentaux individuels et les institutions démocratiques. Le troisième rôle, celui qui occasionne les plus grands maux de tête diplomatiques, est aussi le plus essentiel quant à l'image que l'Union a d'elle-même et à son positionnement parmi les grandes puissances. Rivalité systémique, cela veut dire que 30 ans après la chute du mur et la fin de l'histoire annoncée par Fukuyama, l'Europe tire un trait sur la pensée selon laquelle la démocratie libérale serait la panacée universelle. Cependant, il y a un hic. Quiconque voit un rival systémique doit savoir aussi se regarder soi-même. Quiconque reconnaît que tous sur cette planète ne sont pas appelés à devenir les mêmes ne peut plus se contenter d'une image de soi qui en appelle à des valeurs universelles. À partir du moment où la Chine rivale se manifeste comme civilisation et superpuissance, quelle histoire, quelle image de soi et quelle puissance l'Europe est-elle prête à lui opposer ? Est-elle capable de lui opposer ? Des questions que nous aborderons dans les deux prochaines conférences. quelques mots de conclusion. Les forces et faiblesses de la politique européenne actuelle à l'égard de la Chine ressortent clairement de l'accord de principe conclu au cours des dernières heures de 2020 sur les investissements avec Pékin. Au nom de l'Europe, le Quator Michel, von der Leyen, Merkel et Macron s'est entretenu par visioconférence avec Xi Jinping, le président chinois. Si l'accord donne un meilleur accès et une meilleure protection aux entreprises européennes sur les marchés chinois, les analystes ont surtout été frappés par son importance stratégique. De son propre chef, l'Union a accompli un acte géopolitique. Washington s'en est offusqué. Comment l'Europe peut-elle conclure un accord avec le grand rival chinois seulement 3 semaines avant l'investiture de Joe Biden ? N'aurait-elle pas pu attendre afin qu'on s'entende contre la crapule Xi, pour reprendre le terme employé par Biden lors de sa campagne ? D'autant plus que l'Europe semblait soulagée de voir Trump partir. Peu avant Noël, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a fait savoir sur Twitter que le nouveau gouvernement apprécierait une consultation des alliés européens sur la Chine. Continuité frappante avec la période Trump, la Maison-Blanche de Biden, qui donne elle aussi des ordres par Twitter. L'Union avait pourtant de bonnes raisons de s'en tenir au calendrier prévu. En effet, l'accord d'investissement a été négocié avec Pékin 7 années durant. Lors du sommet UE-Chine de 2019, on avait fixé comme date butoir le 31 décembre 2020. Washington ne pouvait donc feindre la surprise. La Chine ayant par ailleurs pris des engagements importants au dernier moment, freiner les choses eût été envoyé un mauvais signal, ou donner à penser que l'Europe n'agit qu'après avoir obtenu le feu vert des États-Unis. Vis-à-vis de Pékin, mais aussi de Moscou, Ankara, Londres ou Téhéran, cela aurait eu de terribles répercussions sur la réputation internationale de l'Union et réduit à néant les moyens de pression politique et économique dont nous disposons dans la défense de nos intérêts et valeurs. Si cet acte géopolitique de l'Union a été une force, il n'a pas tardé à révéler une faiblesse. Presque personne, côté européen, n'a défendu officiellement l'accord. La présidente de la Commission semble s'en distancier. Le président Macron estime sans doute en avoir assez fait en accordant ce succès à Merkel. Si la chancelière a elle-même parlé d'un accord important, elle a d'autres préoccupations en ce moment en raison de la pandémie. Pendant que les critiques à propos de l'accord enflent au sein du Parlement européen et des parlements nationaux, les gouvernements restent silencieux. La raison de ce silence narratif réside probablement dans un certain malaise. Le procès en hypocrisie n'est jamais très loin lorsque l'on se dit préoccupé par les droits de l'homme, par Hong Kong ou les Ouïghours, tout en souhaitant par ailleurs défendre ses propres intérêts économiques. Il s'agit là d'une faiblesse géopolitique. En 2019, l'Union a analysé avec pertinence les 3 rôles que joue la Chine, partenaire, concurrent, rival systémique. Une percée stratégique conceptuelle. Mais depuis lors, la réflexion s'est arrêtée. Et ces jours-ci, on en paie les frais. Lundi 22 mars, juste la semaine dernière, l'UE a pris des sanctions contre 4 fonctionnaires chinois locaux pour des abus contre la minorité ouïghour, actant ainsi la rivalité systémique. Or, la Chine a riposté très vite et d'une main ferme. 10 parlementaires, 27 ambassadeurs et quelques institutions, dont un grand think tank à Berlin, placés sur une liste noire. en attendant des mesures encore plus sévères si on ne fait pas demi-tour. L'Europe ne s'attendait pas à une telle réplique. L'accord sur les investissements était censé jouer un rôle d'apaisement. Mauvais calcul, visiblement. Les Chinois n'acceptent plus les leçons de morale. Une nouvelle expérience. Jusque-là, les sanctions européennes visaient d'habitude des dictateurs lointains et ne heurtaient quasiment personne chez nous, à part l'un ou l'autre exportateur d'armes, par exemple. Mais cette fois, une puissance non occidentale nous réprimande d'une façon qui fait mal. Et ça, encore une fois, c'est nouveau. On sent donc que les évolutions s'accélèrent et les questions qui nous occupent deviennent donc très urgentes. Est-ce que comment ces trois rôles doivent-ils se rapporter les uns aux autres? Comment la Chine ou la Russie peut-elle être à la fois partenaire et rivale systémique? Cette rivalité va-t-elle interdire toute autre interaction? Et quel récit nous permet de trouver un chemin entre jugement sans concession et silence hypocrite? Et quels sont les forums décisionnels qui permettent de porter des jugements politiques prenant en compte valeurs et intérêts? Telles sont sans doute les principales tâches de la politique européenne à l'égard de la Chine dès aujourd'hui et pour les années à venir. Pour une Europe faible, la Chine représente une menace majeure. Face à une Europe qui sait ce qu'elle veut, qui est en mesure de se défendre, elle montrera du respect. Mesdames et messieurs, chers publics, ainsi qu'on vient de le voir, depuis 2008, les chocs subis par les Européens par rapport à la Chine, lesquels ont atteint leur point culminant avec la pandémie, ne forment probablement que le début d'une pièce géopolitique en plusieurs actes. La relation de chacune des parties avec le troisième grand acteur, les États-Unis, déterminera le développement de la prochaine scène. Nous en parlerons dans 8 jours. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.